Tout pour investir, le déchiffrage.
Le déchiffrage à 11h05 avec nos deux invités ce matin en plateau. Marc Tepelman, bonjour, merci de nous accompagner ce matin. Vous êtes le fondateur de CashBee et Mathias Bacino, senior advisor chez Trade Republic. Bonjour à tous les deux. Comme je disais en préambule, beaucoup de sujets à aborder ce matin. Dans un instant, on parlera de dette publique avec donc la France qui est sur le podium une nouvelle fois. Deuxième place d'après les chiffres de Eurostat, juste derrière la Belgique. Les ETF, que faut-il penser aujourd'hui de ces trackers? Vous donnerez votre avis juste dans un instant, Marc Tepelman. Mais juste avant, commençons peut-être par ce dicton, sell and may and go away, sachant qu'on voit un peu partout Mathias Bacino, que les indices sont sur des records. Alors c'est vrai que l'Europe n'en est pas très loin, mais elle n'est pas sur des records, contrairement à l'Asie et contrairement aux États-Unis. C'est vrai que ça peut interroger certains investisseurs qui se disent tiens, en fait, les marchés sont au plus haut, alors qu'on a toujours un conflit en Iran, que le pétrole est à 100$, qu'on a encore beaucoup de questions sans réponse.
Alors c'est vrai que la saisonnalité historique des marchés prêche pour effectivement un mois de mai plutôt difficile en bourse. Et quand on voit la situation actuelle dans le détroit d'Ormuz et l'absence de réouverture à ce stade, on peut effectivement imaginer que la situation se complique. Néanmoins, Donald Trump et son comportement diplomatique agressif font que la prévisibilité des marchés financiers et de l'économie est quand même assez faible actuellement. C'est-à-dire que on a un niveau d'incertitude qui est vraiment très élevé, quoi, sur la suite économique et boursière de l'année. Donc, bien malin, qui saura dire si en mai cette année les marchés baisseront, parce que, à mon sens, la saisonnalité à ce stade est annulée par le elephant in the room, qui est la réouverture du détroit d'Ormuz. Donc, si le détroit réouvre et que une forme de paix est trouvée et qu'on peut relancer les échanges, on peut pas du tout exclure un très bon mois de mai en bourse cette année.
Alors un investisseur qui est sur du long terme, qui prépare sa retraite, etc., il n'est pas là pour faire du tactique et se dire « est-ce que je vends aujourd'hui pour racheter cet été ?» Vous, qu'est-ce que vous en pensez de ce « sell and man go away » Marc Tepelman?
D'abord, moi j'aime bien ces adages, il y en a plusieurs, celui-là m'a interpellé, donc j'ai fait mes recherches statistiques, et statistiquement, en moyenne, et c'est là le risque, ça marche. C'est-à-dire que si vous vendez systématiquement au mois de mai pour racheter au mois de novembre, statistiquement, du mois de mai au mois de novembre, année après année, on va faire du 2-3% en positif quand même, alors que de novembre jusqu'à la fin d'avril, on fait statistiquement et en moyenne du 7%, notamment sous l'effet l'effet Père Noël, l'effet de début d'année, etc., etc. Maintenant, je rejoins parfaitement ce qui a été dit, et je pense surtout pour quelqu'un qui investit à très long terme, que d'essayer de timer le marché, même en prenant en compte des adages de ce type, c'est plutôt dangereux. Parce qu'il ne faut pas oublier une autre statistique qui me paraît tout aussi importante, qui est que sur des durées très longues, 20 ans et plus, quand on loupe les 10 meilleures sessions de bourse, on diminue son rendement de moitié. Et ça, timer le marché, personne ne sait le faire, surtout pas les épargnants individuels, mais même les pros se plantent. Et en loupant ces 10 jours, et certaines de ces sessions font souvent suite justement après des journées de correction, on met à risque sa performance sur le très long terme. Donc c'est un adage qui est sympathique, il est soutenu par les statistiques, mais moi, pour l'investisseur, l'épargnant individuel, je préconiserais de rester à l'écart et de l'écouter trop religieusement.
On a bien vu au mois de mars, les investisseurs qui étaient sous-investis ont loupé le rebond qui a quand même été massif. Le Nasdaq a gagné 15% là depuis le début du mois. C'est quand même impressionnant, Mathias Bacino. Sans parler des semi-conducteurs qui, là, parfois, sont en hausse de 20-30% en l'espace de
Le début d'année 2026, c'est une école d'humilité, je crois, pour les analystes et de manière générale pour celles et ceux qui observent les marchés financiers. Enfin, le seul conseil, moi, que j'arrive à donner depuis le début de l'année, c'est de diversifier encore plus. C'est-à-dire que quand on a un tel niveau d'incertitude de court terme, mais aussi de moyen terme du coup, parce que si cette crise pétrolière se transforme en crise économique et en récession mondiale, les conséquences seront des conséquences de moyen terme. Donc pour l'instant, diversifier effectivement, des marchés qui remontent alors que Hormuz n'est toujours pas réouvert, c'est effectivement très surprenant. Et là, on voit que l'Europe commence à souffrir davantage. Est-ce que ce qu'on disait il y a plusieurs semaines sur ce plateau, c'est-à-dire que la victime principale économique de ce conflit serait l'Europe, est-ce que ça va se matérialiser? Moi, je vais suivre très très attentivement les réunions des banques centrales cette semaine, parce que entre la réunion de la Fed et la réunion de la BCE, il va y avoir quand même là des enjeux absolument considérables, quoi. Est-ce que les banquiers centraux vont agir maintenant ou attendre, quitte à déclencher un début de crise économique plus profond parce qu'ils n'auraient pas remonté les taux. J'aurais pas cru dire ça il y a 3 mois. Donc non, on est dans une situation qui est extrêmement incertaine. Et à ce stade, pour tirer des conclusions économiques et boursières, je pense qu'il faut attendre de voir si oui ou non le détroit est réouvert. Et il semblerait, enfin les analystes semblent s'accorder sur le fait que si d'ici une dizaine de jours le détroit n'est pas réouvert, les conséquences économiques seront vraiment massives, quoi.
À ce stade, le scénario, hein, que ce soit en France mais même au niveau mondial, c'est moins de croissance, plus d'inflation. Donc c'est quand même un équilibre difficile pour les sociétés, mais aussi pour les États. Hein. C'est vrai que hasard de calendrier, Eurostat a fait la semaine passée un petit peu son classement hein, des pays qui suffoquaient de leurs dettes. La France est au deuxième rang derrière la Belgique. Et puis, malheureusement, c'est pas prêt de s'arranger parce qu'on aura moins de croissance. Qui dit moins de croissance dit moins de rentrée fiscale. Et Bercy qui annonce la semaine dernière devoir trouver 6 milliards d'euros supplémentaires pour tenir son budget.
Ma conviction personnelle, c'est que on est en train de réaliser collectivement, à la fois dans les médias et dans l'opinion publique, que la France est nue. C'est-à-dire que on dit souvent en plaisantant que c'est quand la marée baisse qu'on voit qui avait un maillot de bain. Bon bah là, le conflit en Iran fait que la marée économique baisse très fort d'un coup, et on s'aperçoit assez brutalement du fait que la France n'a plus les moyens. On vient de mettre 150 millions d'euros à peu près pour soutenir notre économie face à ce choc, alors qu'en 2022, on avait mis 250 milliards. Donc il est clair qu'on n'a plus les moyens, et que la dette est devenue un problème absolument central dans le débat public français, et que à ce stade, et c'est un papier que j'ai lu dans les Échos il y a quelques jours, de l'ancienne directrice du budget Isabelle Bouillot, donc on peut pas être là sur on n'est pas sur un profil de complotiste économique, je veux dire, qui nous explique que la France est en train de se mettre à l'arrêt en fait économique, et que ça part de la dette. Donc quand on a 70 milliards d'intérêts de la dette à payer, et qu'on a un budget qui est le nôtre, c'est-à-dire un budget absolument catastrophique parce qu'il n'investit pas pour l'avenir, eh bien effectivement les prêteurs et les analystes nous sanctionnent. Moody's, qui ne dégrade pas la note de la France il y a quelques jours, portera une responsabilité forcément, d'une manière ou d'une autre.
Là, c'est la Belgique hein, qui s'est fait dégrader vendredi soir. C'est S&P qui a décidé d'abaisser d'un cran la notation du pays à cause justement de ce déficit hein, qui est au-delà des 105%. Comment vous, chez CashBee, vous regardez ce sujet, Marc Tepelman, sachant qu'à court terme, ça peut peut-être offrir des opportunités puisqu'on a des rendements qui ont progressé?
Oui, alors il y a la réponse macro, ouais. Et effectivement il y a la réponse au niveau de l'investisseur individuel. Pour la réponse macro, je rejoins alors à 100% ce qui vient d'être dit. C'est très très inquiétant de voir que le second poste d'un budget, c'est le coût de la dette. C'est très très inquiétant de voir que aujourd'hui on a aucune flexibilité budgétaire pour répondre à des urgences qui sont, il se trouve aujourd'hui liées à la fermeture du détroit d'Ormuz. En revanche, au niveau de l'épargnant individuel, oui, quelqu'un qui est investi dans un fonds euro, qui est un des produits favoris des épargnants français, il peut espérer d'en tirer des rendements plus attractifs dans les années à venir, tout simplement parce que le fonds général des différents assureurs qui proposent des fonds euros est très largement investi en obligations étatiques à très long terme, et qu'il se trouve que les nouvelles obligations étatiques qui sont à l'offre proposent des taux d'intérêt plus élevés, bien plus élevés qu'il y a un an. Ben pourquoi ? Ben parce que les prêteurs commencent à avoir des doutes sérieux sur la capacité de tel ou tel pays de pouvoir honorer sa dette qui ne fait que croître. Mais au niveau individuel, oui, on peut espérer, par exemple, que sur un fonds euro, on va pouvoir recevoir des rendements de l'ordre de 3, voire plus, % net de frais par an, là où le livret A, je vous le rappelle, est à 1,50.
Mais le livret pourrait remonter si l'inflation continue de remonter. Bien malin là aussi qui peut prévoir le niveau d'inflation en fin d'année parce que ça dépendra des cours du pétrole, Mathias Bacino. En attendant, cette inflation à court terme, elle se voit dans tous les indicateurs grâce notamment à la remontée ou à cause plutôt des prix de l'énergie à la pompe.
En fait, j'ai lu une certaine quantité de papiers de la BCE, de la Banque de France, du FMI qui ont travaillé ces dernières semaines sur des scénarios d'inflation. Et à ce stade, à peu près tout le monde s'accorde sur deux choses. La première, c'est que l'inflation va se généraliser à d'autres produits que simplement l'énergie, entre autres à l'alimentaire, puisque là, on est déjà quasi certain d'avoir une hausse des produits alimentaires en fin d'année. Le deuxième élément, c'est que, en gros, pour la France, on s'attend à une deuxième partie de l'année avec une inflation autour de 3%. Voilà ce qu'on peut tirer des rapports d'économistes qui ont été publiés. Donc, 3% d'inflation. À un moment donné, le gros problème, c'est que il y a de moins en moins de croissance parce que la France n'investit pas dans son avenir. Et donc, moins de croissance, plus d'inflation. Et un coût de la dette qui augmente encore et toujours, ça crée un moment donné un risque pour le pays qui est de voir la dette ne plus être soutenable. Pourquoi ? Bah parce que tout simplement il n'y a pas suffisamment de croissance pour compenser la hausse des intérêts, quoi. Donc c'est pour moi le plus gros sujet de notre pays pour les 12 prochains mois, et ce qui m'amène évidemment à la question des retraites, puisque la question de la dette en France est en fait la question du système de retraite, la question du pouvoir d'agir de l'État et celle du système de retraite en fait. Et je note que au même moment où on s'aperçoit que la dette en France est en train de devenir un problème absolument fondamental, eh bien on a en même temps les personnes de Bercy qui nous disent que peut-être il faudrait trouver une manière de présenter les comptes publics de manière plus juste aux Françaises et aux Français, entre autres à commencer par le déficit des retraites, puisque le déficit du système de retraite, contrairement à ce qui est dit, n'est pas de 5 milliards d'euros cette année, mais plutôt de l'ordre de 70 à 80 milliards. Ça commence à se voir. Donc on dit souvent que quelqu'un qui est conscient d'être malade est déjà à moitié guéri. Eh bien là, il me semble qu'on est en train petit à petit de prendre conscience. Et ça fait mal, mais au moins après, on peut avancer, quoi.
Dans un an, il y a des élections. Espérons que ce soit un sujet, en tout cas, qui soit sur la place publique, ce sujet de la dette.
Ah ben, il va l'être par la question du pouvoir d'achat, en fait. Le lien entre le surendettement de notre pays et la baisse du pouvoir d'achat est en train de se voir. Et donc, comme le pouvoir d'achat est la préoccupation principale des Françaises et des Français, on peut espérer que le lien avec la dette soit fait.
Le 10 ans français, donc le prix auquel s'endette la France, en ce moment, c'est 3,7%. Marc Tepelman, oui. C'est vrai qu'avant le conflit, on était plutôt aux alentours des 3,2. Oui. La charge de la dette, c'est 50, 60 milliards, et puis ça fait que progresser d'année en année. Forcément, là, si en plus, vous avez des taux qui continuent de grimper. Comment vous regardez ce sujet-là par rapport à ce qui vient d'être dit, notamment sur les marges de manœuvre et sur ce cercle vicieux, entre guillemets.
C'est intéressant de voir, c'est évidemment l'évolution du niveau de ce taux, mais aussi en relatif. C'est-à-dire qu'il y a 10, 20, 30 ans, quand je travaillais en salle des marchés, la France était parmi les bons élèves en Europe. Et que nos taux, il était de bon ton de les comparer à l'Allemagne, qui était évidemment le meilleur élève de la classe. Et donc, on payait, nous, la France, un écart de 20 centimes, 0,2% de plus. Et c'était estimé comme étant le bon reflet de l'état des choses. On était un pays à qui prêter ne représentait pas un très grand danger. À l'inverse de notamment l'Italie, la Grèce et le Portugal et l'Espagne. Ces quatre pays que je viens de citer viennent de passer par une période certes très douloureuse, mais ont pris les problèmes de déficit budgétaire à bras-le-corps, soit parce que ça leur a été imposé par les autorités européennes ou internationales, soit par une volonté très forte et une prise de conscience très forte. Il se trouve qu'aujourd'hui, un certain nombre de ces pays aujourd'hui s'endettent à des tarifs moindres que la France. Ce qui veut tout dire. Le marché, je veux bien entendre qu'il n'est pas toujours parfait, mais sur des durées relativement longues, le marché, il dit ce qu'il pense. Et le marché, aujourd'hui, il nous dit « La France, vous n'avez aucune marge de manœuvre ». Et on estime que le risque de défaut de la France, certes encore très éloigné aujourd'hui, est plus élevé que celui d'une Italie, d'une Espagne, qui ont mis de l'ordre dans leur compte.
Et dans ce contexte, vous faites quoi aujourd'hui chez Cashbee, concrètement ? Alors, vous êtes en relation avec des clients, avec des investisseurs,
comment vous les aiguillez ? On prend la diversification par classe d'actifs, par région, par secteur. On se dit que sur le très long terme, encore une fois, malgré les dangers macroéconomiques qui sont devant nous, malgré l'incertitude et l'instabilité géopolitique qu'on teste tous les jours, il y a encore espoir de croire à une croissance mondiale sur le long terme. On pense que l'IA aura un impact majeur sur la productivité dans bon nombre de secteurs. Encore une fois, compliqué de les mesurer aujourd'hui, mais relativement certain sur le fait que ça va avoir un impact potentiellement positif sur un bon nombre de secteurs. Et donc, rester diversifié par classe d'actifs, par région Et en se rappelant que les chocs, il va y en avoir de temps à autre, mais qu'on fait un investissement à long terme, justement pour pouvoir espérer un rendement en moyenne sur le long terme qui dépasse de loin l'inflation, eh bien avec ces éléments-là, on devrait s'en sortir. Et donc, on conseille surtout à nos clients de continuer à faire des investissements réguliers.
Ce qui est difficile, en fait, en ce moment, c'est que le moral du consommateur et le moral de l'investisseur, qui sont une seule et même personne, n'est pas le même. C'est-à-dire que c'est une statistique qui m'avait marqué la semaine dernière, c'est que on a une confiance, un moral du consommateur américain qui est au plus bas et des marchés financiers américains qui sont au plus haut. Et ce qu'on vient de dire sur l'avenir à court terme de la France, qui va devoir se serrer la ceinture, je veux dire, il y a pas de cas où on ne sera pas obligé de se serrer la ceinture en France. Eh bien, ça ne veut pas forcément dire non plus que le CAC 40 va se péter la figure. Parce que les entreprises du CAC 40 font une grande partie de leur chiffre d'affaires à l'étranger, sont des groupes d'envergure mondiale. Et donc, être capable en soi-même de différencier le consommateur de l'investisseur, ça va peut-être être le challenge 2026 des investisseurs particuliers, qui sont nombreux et qui sont beaucoup à être débutants. Et débuter dans l'investissement dans des marchés pareils, c'est pas facile. Donc, le besoin d'accompagnement et d'explication est très important, je crois.
Et il y a un besoin au point même que aujourd'hui, en plus de préparer sa retraite, il y a des personnes qui investissent pour leurs enfants, pour leurs études, etc. Et vous vous dites, pourquoi pas faire un petit peu comme les Trump Accounts là, qui ont été votés il y a quelques semaines, créer un livret de placement boursier pour les enfants.
Donc je le rappelle, hein, les enfants actuels, on va leur laisser au minimum 50 000 euros de dette publique par tête, et a priori, selon les études, ils devraient avoir une retraite au moins un tiers inférieur en valeur à ce qu'on a aujourd'hui. Donc, leur avenir n'est pas rose du point de vue économique. Et j'ai observé que en Allemagne, le gouvernement du chancelier Merz veut investir 10 euros par mois pour tous les enfants de 6 ans à 18 ans sur un portefeuille d'actions diversifié pour leur retraite, avec pas d'impôt s'ils n'y touchent pas avant la retraite. Il y a le Trump Account, évidemment, aux États-Unis. En France, il y a un homme politique qui en a parlé déjà de cette idée-là. Alors là, moi, je suis un peu moins ambitieux. C'est-à-dire, je propose quelque chose qui ne coûterait rien. C'est-à-dire
Parce qu'en fait, aux États-Unis, on leur donne 1000 dollars.
Voilà. Et en Allemagne, 10 euros par mois. Je demande quelque chose de beaucoup moins ambitieux, peut-être conscient des réalités parlementaires françaises actuelles, et je demande à ce que le PEA, le plan épargne en action sur lequel on paye donc 18,6 d'impôt sur les plus-values au lieu de payer 31,4, que ce PEA qui est ouvert uniquement aux majeurs soit également ouvert aux mineurs. C'est aussi simple que ça. Au lieu de commencer l'éligibilité du PEA à 18 ans, on la commence à la naissance. Comme ça, de 0 à 18 ans, les parents pourront capitaliser pour leurs enfants en payant moins d'impôts et en investissant en Europe. Ça me semble être une proposition qui coûte rien à personne et qui serait facilité, quoi.
Michel Delobel nous attend depuis MW Gestion, mais pour conclure
une
sur
phrase,
ce sujet,
Marc Appelmann. J'adore l'idée et je dirais juste, accompagnons-le de l'éducation des grands-parents. C'est souvent les grands-parents qui ouvrent des livrets A pour leurs petits-enfants. Les petits-enfants ont le temps long. Éduquons les grands-parents pour dire, au lieu d'ouvrir ce livret A, ouvrons ce PEA jeune ou PEA enfant et mettez donc vos deniers dans des produits à risque qui, sur le long terme, surperformeront quoi qu'il en coûte, le livret A.
C'est le mot de la fin. Merci à tous les deux de nous avoir accompagnés pour ce déchiffrage. Marc Appelmann, donc le fondateur de CashBee, et Mathias Bacino, conseiller senior pour la croissance de Trade Republic. Hein, c'est une traduction un petit peu de senior advisor.
Ça marche bien.
Voilà, dans les deux sens. Comme ça, tout le monde aura compris votre nouvelle fonction.